Erev Tov, les Koulam, bonsoir à toutes et à tous. On est lancé dans Parashat Lech Lecha. Parashat Lech Lecha, c'est la rencontre avec Abraham. Ça y est, c'est le début de notre histoire. C'est le début de l'histoire du peuple juif. Moi, je veux bien, mais le problème, c'est que c'est tellement notre histoire, qu'on ne la connaît pas. Eh oui, ça c'est un classique. On est tellement dedans qu'on croit tout savoir et on ne la connaît pas, en fait, notre histoire.
On ne voit pas de l'extérieur.
On ne voit pas de l'extérieur. Et donc, on ne prend pas la peine d'avoir une vision. C'est-à-dire, je ne vais pas t'expliquer, je ne vais pas expliquer à certaines personnes ici comment on fait un gefilte fish, comment on fait un... Non, d'autres, peut-être certains, oui, mais... Oui, mais je ne vais pas t'apprendre à toi comment on fait un couscous. Ben voilà, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où je me... c'est chez moi, c'est mon truc. Donc, je le vis de l'intérieur, j'ai donc pas forcément besoin que tu m'en expliques tous les tenants et les aboutissants. Le problème, c'est que certes, je le vis de l'intérieur, mais ce qui est une évidence pour moi le sera... Non, c'est une... je vis mon judaïsme, c'est une évidence, il n'y a pas de problème. Mais il y a une différence entre vivre les choses et... Voilà, ça fait partie de moi, et savoir à quel point ça fait partie de moi. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre être conscient de mon identité et vivre les choses doucement, doucement. Et l'important, quand on étudie notre histoire, c'est de savoir que c'est notre histoire. D'accord ?
Juste un petit mot, mais tu ne penses pas que tous les gens qui sont là sont conscients de leur identité.
Bien sûr. Alors, ben oui, mais c'est exactement de ça que je te parle. C'est de ça que je te parle. C'est que tu es conscient de toi. Mais exactement. Et je suis, Annie Akatan, je suis très, très, comment on dit, je prends des pincettes avec vous parce que je vais certainement pas moi vous apprendre quoi que ce soit. Mais je pense, non, je parle pas d'information, je parle de la vie et de mon identité. Mais je pense que si on n'est pas au fait de notre histoire, ça pose un problème aussi dans notre identité. On dit qu'il est attaqué par... C'est bon ?
T'as une chose à dire ou quoi ? C'est
pas. Mais c'est ça ! Moi, je pense que si on ne connaît pas notre histoire, eh bien, c'est notre identité qui en pâtit. En malas. Ne serait-ce que, et je vais vous dire... Quand les petits-enfants, ils viennent et ils demandent pourquoi papy, ou les arrière-petits-enfants, ça va être encore mieux, ils viennent vous voir et disent « Papy, pourquoi c'est ça notre minag ?» Et je parle particulièrement des minagim. Pas des halakhot, ça c'est pour les religieux. Mais je parle des minagim. Et on en a plein des minagim que c'est comme ça. Et chas v'shulem qu'on ne fasse pas le minag, mais on ne sait pas vraiment pourquoi.
Ouais. Pas d'où ça vient.
Et alors, d'où ça vient la mappa?
Du 16e siècle.
Oui, mais...
D'après
Élie. Ah. Quel Élie? Ah, lui, là, je crois, il a fait des recherches. Il a dû faire des recherches.
Il a fait des recherches, nous a fait une recherche.
Mais elle est à quoi? C'est quoi la mappa à la base? C'est les couches.
C'est
les couches.
C'est les couches.
Donc on se dit, maintenant, c'est un grand, donc il n'a plus besoin de rien, mais ce qu'il a accompagné...
Il a vu dans la Torah, il a cherché les lettres.
Il a fait mal. Maintenant, combien le font?
Les Alsaciens.
Non, je ne parle pas que de la mappa, mais d'aller chercher les sources du minag. C'est très bien de le faire. Et heureusement qu'il y en a qui le font. Je dis que si on n'est pas capable de dire pourquoi, c'est que notre identité, on la vit, mais on ne la connaît pas. Je rajoute un bémol, c'est que oui, on connaît notre histoire, mais on connaît notre histoire. On ne connaît pas notre histoire de celui qui est un petit peu pas comme moi, mais comme moi. C'est-à-dire, oui, dans le monde séfarade, on connaît l'histoire du monde séfarade, mais on n'y connaît rien à l'histoire du monde ashkénaze. Dans le monde ashkénaze, on...
Oh, mais pas grand-chose.
Bon, et tu sais quoi? C'est encore plus vrai dans l'autre sens. Parce que toi, tu n'as pas eu le choix. Les ashkénazim, ils ont ashkénisé le judaïsme. Donc, si tu veux, pendant très longtemps, tu n'avais pas le choix d'apprendre l'histoire ashkénaze. Je donne des circonstances atténuantes. Quantitativement parlant, les 200 dernières années, elles se passaient du côté du monde ashkénaze. Mais tu prends le monde ashkénaz, il ne connaît pas du tout l'histoire des Juifs d'Afrique du Nord.
Il y a beaucoup d'ashkénazes qui sont venus aussi bien au Maroc, en Algérie qu'en Tunisie pour étudier le minhagim
du Maroc et
de l'Afrique du Nord.
Tout à fait.
Je veux dire que mon père, qui est lituanien de Vilna, c'est quand même pas un imbécile.
C'est le Maroc du Nord, quoi.
Il a été au lycée en hébreu, tout le truc. La première fois que Lazare Boaziz est venu à la maison, il lui a demandé d'où vous êtes. Lazare a dit, bon, je suis de Beaune. Je suis d'Oran. Quoi, il y a des Juifs en Afrique du Nord? Les Lituaniens ne savaient pas qu'il y avait des Juifs. Les premiers Juifs d'Afrique du Nord que papa a vus, c'était mes copains.
Mais attends, mais j'allais.
Il a parfaitement raison.
Tu me parles de j'ai peur de dire, mais il y a à peu près 50 ans l'histoire de ton père.
On dit
60 et on est bon. Mais on va plus près. Il y a 18 ans, ma femme fait son alia. En Israël, c'est la première fois qu'elle va rencontrer un séparable de sa vie. Elle a grandi à Manchester, en Angleterre, dans le ghetto, et elle a découvert plus tard que deux des filles de sa classe étaient séparades. Mais elles avaient changé de nom, évidemment. C'est-à-dire, donc, si on connaît, mais c'est une partie de notre histoire, donc une partie de notre identité. Donc, ce qui est vrai à notre niveau proche, eh bien, je suis persuadé que c'est vrai aussi, et voire peut-être encore plus, dans nos origines. Dans nos origines. C'est-à-dire que si tu connais tes origines, eh bien, tu sais exactement quels sont, si tu veux, les... Aujourd'hui, c'est répandu, les tests ADN pour savoir d'où tu viens, exactement d'où est la couleur de tes yeux. Ce n'est pas seulement un truc technique. Si tu connais tes origines, eh bien, tu peux appréhender ton identité beaucoup plus calmement et beaucoup plus profondément. Et c'est pour ça que cette paracha-là, évidemment, nous, on connaît l'Ech Lecha, on connaît l'appel de Dieu à Abraham, d'accord. Mais ce qu'on a oublié de préciser, c'est que d'où il vient, cet Abraham? Parce que Vayomer Hashem El Avram, c'est énorme comme verset. Dire, nous, on a tellement l'habitude, Vayomer Hashem El Moshe les morts, machin, mais deux secondes. Ça fait à peu près 2400 ans qu'on vit sans prophétie. On n'a plus l'habitude de la prophétie. Mais il faut savoir que la prophétie, c'est quand même quelque chose d'énorme. C'est le moment où le Créateur est en contact direct avec la créature. Ce n'est pas seulement le prophète qui ressent cela, c'est le monde entier. C'est-à-dire que le monde de la prophétie, c'est un monde où il y a un contact entre moi et l'origine. C'est énorme. C'est tellement énorme d'ailleurs que lorsque ça s'arrête, le monde entier s'éteint. Le monde entier s'éteint. Et donc, on va être obligé, puisqu'on lui a éteint la lumière, de créer des ampoules. Je ne parle pas d'Edison. Je parle d'ampoules intellectuelles. Il y a 2400 ans, plus ou moins 17 minutes, dans le monde entier, il y a un chamboulement des consciences parce que tout d'un coup, Dieu arrête de parler. C'est vrai en Grèce, où du jour au lendemain, on passe de la mythologie à la philosophie. Socrate, pouf, tellement pouf d'ailleurs que Platon, de Socrate, il dira qu'il ne comprend pas ses grands-parents qui se prosternaient devant des pierres. Et il dit donc de deux choses l'une, soit ils étaient débiles profonds, soit ils ont parlé par parabole et on ne comprend pas ce qu'ils voulaient dire. Au même moment où la Grèce passe de la mythologie à la philosophie, à l'Est, en Perse, il y a un homme qui s'appelle Zarathoustra qui annule toute l'idolâtrie perse et qui crée une religion basée sur une dualité, un dieu bon, un dieu mauvais, une religion basée sur la morale. Ok. Au même moment, un petit peu plus à l'Est, il y a un gros monsieur qui s'appelle Gautama Siddhartha, plus connu sous le nom de Bouddha, qui va chambouler le monde de l'Inde, annule l'idolâtrie hindoue de l'époque et va créer le bouddhisme. Au même moment, Mamash, et je te dis, quand je te dis au même moment, c'est sur une fenêtre de 15-20 ans, quoi. C'est vraiment au même moment. En Chine, il y a deux bonhommes qui s'appellent Lao Tse et Confucius, qui vont créer le taoïsme et le confucianisme, en annulant toutes les idolâtries chinoises de l'époque. C'est le monde entier, on lui a éteint la lumière de la révélation, et alors ils sont obligés de repenser leur existence. Chez nous, ça coïncide le même moment, à la fin de la prophétie et le début des rabbins. C'est Ezra. Okay, c'est la fin de la prophétie, le début des Chachamim. Bon, tout ça, c'est bien beau. Mais donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un monde où il y a la prophétie, c'est un monde où il y a le contact entre le Créateur et moi, c'est-à-dire entre moi et l'origine. Avraham, quand on nous dit « Vayomer Hachem El Avraham », moi, de ce que j'ai appris, c'est que pour que Dieu se dévoile à quelqu'un, il faut que ce quelqu'un, il soit sacrément... Hein, c'est pas, on se dévoile pas au dernier des mecs. Donc, chez Noach, ça me va. Puisque chez Noach, il y a marqué, avant qu'on me dise que Dieu lui parle, on me dit, Noach était un sadique dans sa génération. Donc, on sait, voilà, c'est un mec bien, le mec. Là, je n'ai aucune info sur Avraham. Et on me balance, va yomer Hachem et Avraham. Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça? Alors attention, les Midrashim sont pleins d'actions extraordinaires d'Abraham. C'est-à-dire que si tu lis le Midrash, tu sais pourquoi Dieu s'est dévoilé à lui. Dans le Midrash, Abraham, c'est un tzaddik ultime. Le problème, c'est que, comme son nom l'indique, le Midrash n'est que la moitié d'un drash. Oui, c'est un Midrash. Mais plus sincèrement, le Midrash vient nous aider à comprendre le texte, pas l'inverse. Donc, je dois, moi, comprendre, d'après le texte, pourquoi Dieu s'adresse à Abraham. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que je sais de lui? Et donc, c'est là que je dis, il faut savoir d'où ça vient, ses origines. Parce que ses origines, c'est mes origines. Abraham, je sais quelque chose de lui. Parce qu'on me l'a présenté à la fin de la paracha de Noach. On ne m'a pas présenté et on ne m'a pas dit ce qu'il a fait. On m'a simplement présenté... Voilà, sa généalogie. C'est le fils de qui? C'est vrai. Et Terah, c'est le fils de qui?
Nahor,
il fait merde. Et Nahor, c'est le fils de qui? Ah, faut pas pousser. Hein.
Abkan.
Abkan, hein?
On en a au moins 10.
Mais attends, nous, on est capable de faire mieux dans notre identité personnelle? C'est-à-dire, je remonte chez mon père, pas de problème. Mon grand-père, c'est bon. Mon arrière-grand-père, je peux. C'est-à-dire, je sais qui c'est. Mais au-delà...
Ben nous, c'est facile, ils ont été brûlés, donc ils sont tous...
Non, mais avant d'être brûlés, ils avaient quand même... Pierre, est-ce que tu connais les noms jusqu'où tu peux remonter? Grand-parents, grand-parents, Max, hein. C'est dur hein, de remonter plus haut.
Oui, théoriquement, oui. Tu as dit que toute la philosophie est arrivée à la période
exactement.
De Ezra.
Oui.
Donc, ça veut dire que c'est après la destruction du premier temple.
Ah, tout à fait.
Bien sûr. Mais Abraham donc arrive bien avant.
Oui, Abraham, c'est le moment de la prophétie.
Bien avant toute la philosophie.
Mais bien évidemment. Avant la fin de la prophétie, c'est-à-dire au moment de la prophétie, chez les nations, il y a les mythologies. D'accord. C'est aussi une réflexion. Mais c'est une réflexion où on ressent. Ah, bah évidemment, on est en plein dedans, là.
Ce que je voulais dire, c'est que dans ma famille Ashkenaz, ce qu'ils ont transporté en partant d'Allemagne et autres, ce sont des photos de mes arrière-grands-parents. J'ai des photos sans savoir exactement ce qu'ils ont fait.
Oui, mais c'est déjà ça.
Oui, mais exactement. C'était ce qu'on...
Mais bon...
Ils partaient avec une valise. J'ai jamais compris d'ailleurs.
Bah, les nazis non plus. Hein, les nazis, c'est ce qu'on raconte toujours quand on va en Pologne, que les nazis ne comprenaient pas pourquoi dans les valises des juifs, il y avait tellement de photos.
Absolument.
C'est vrai, on a fait. Alors, nous, on a de la chance dans notre génération parce qu'on a encore les photos. Mais... Pense à tes arrière-grands-parents. Ils n'avaient pas de photos de leurs arrière-grands-parents. Alors, c'est compliqué. Et tout le monde n'était pas suffisamment aisé pour se faire sculpter un buste de ses grands-parents. Non, chez Herzl, il y a ça. Dans la maison, dans le bureau de Herzl, il y a le buste de son père et de sa mère. D'ailleurs, nous, Kolakavod. Mais tout le monde ne peut pas. Donc, mais quitte sur ce que je dis, c'est qu'il faut remonter. Alors là, on a réussi à remonter à Terah, Nahor et... Avant, on n'est pas remonté. Non. On n'est pas remonté au-dessus de Nahor. Non. Donc, on est aux grands-parents d'Abraham. Nahor, grand-père d'Abraham. Le père de Nahor, il s'appelle Serug.
Non, oui, je
n'aurais pas su. Il n'est pas connu, celui-là. Hein.
Non, pas trop.
Le père de Serug.
Il n'a pas de rue.
Hein?
Il
n'a
pas de rue.
Il n'a pas de rue. Quoi, il y a une rue Nahor? Je ne sais pas, hein, je ne suis pas sûr. Vous savez comment ils traduisent Terach en français? Ouais, en français, j'ai regardé dans la Bible traduite du rabbinat. Terach, attention, tenez-vous bien, c'est taré. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est Kitzur. Le père donc de Nahor, c'est Serug. Le père de Serug, c'est Réhou. Le père de Réhou, c'est Peleg. Et le père de Peleg, il s'appelle. Non, il s'appelle Ever. Le père de Ever, il s'appelle Shelach. Le père de Shelach s'appelle Arpachshad. Et le père d'Arpachshad s'appelle Shem. Et le père de Shem s'appelle Noah. Ça, c'est bon. Il y a 10 générations entre Noah et Abraham. Ok, 10 générations. Maintenant, Azov, j'ai pas appris les noms par cœur, c'est à force de relire et tout ça, mais quand on y réfléchit, maintenant que je me la pète, je connais les noms, maintenant quand on y réfléchit, en fait, chaque nom montre quel est l'enjeu de l'époque. C'est-à-dire que Shem, c'est l'identité. Quand je dis, je fais ça au nom d'eux. Le Shem, ça c'est l'objectif. Shem, il a un fils qui s'appelle Arpachshad. Et là, je bloque. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est trop compliqué.
Mais pourquoi ça saute une génération?
Non, ça ne saute pas. C'est juste que moi, je ne sais pas ce que ça veut dire Arpachshad. Mais à coup de pas. Le reste, je peux vous expliquer. Mais Arpachshad, je ne connais pas. Shelach, c'est-à-dire qu'il y a maintenant un message qu'il faut envoyer. Ishloach. Et puis, on arrive à Ever. Ever, Ever, c'est le père de la famille. Puisqu'on va nous dire de Shem qu'il est le père de tous les enfants de Ever. Donc, Ever, c'est lui qui a pris le contrôle de la famille. Donc, cette famille, elle s'appelle comment? Les Hébreux. Abraham est un Hébreu. Parce qu'il vient de Ever, pas parce qu'il a traversé le fleuve, comme dira Rachid dans la paracha. C'est vrai qu'il a traversé le fleuve, mais c'est d'abord et avant tout un Hébreu. Et cet Hébreu-là, il a une qualité particulière. La Torah nous dit qu'il va appeler son fils Peleg. Il nous dit pourquoi? Parce que Beyamav Niflega à Aretz. Parce qu'il voit que dans la génération de son fils, il va y avoir la tour de Babel. Peleg, ça veut dire la séparation. Et donc, il y aura la séparation après la tour de Babel. Tous les rabbins se posent la question, les chachamim disent, bah, comment il peut savoir? Donc, de là, on voit que Ever était prophète. Donc, l'idéal de la famille hébraïque, c'est la prophétie. Peleg vit la séparation du monde. Tu comprends que tout l'objectif de la génération d'après, c'est de se rassembler. Donc, il appelle son fils Réhou. Réhou, ça veut dire Ve'ahavta le're'acha kamocha, la fraternité. C'est ça qu'il faut réapprendre aux gens. Réhou, il voit qu'il faut aller un stade plus loin, donc il appelle son fils Serug, entremêlé, qui passe Ruga. C'est ça? Ça va être encore plus serré. Et Serug, il a un fils qui va appeler Nahor. Nahor, c'est le petit noir. C'est-à-dire qu'on revient aux origines. Et Nahor, il va avoir un fils qui va appeler Terach. Terach, ça veut dire quoi? Il va falloir travailler pour ça. Il va falloir l'itroar. Alors oui, c'est avec un tête, mais le tête et le tav sont des lettres qui s'inversent dans le Tanakh. Il va falloir travailler pour réussir à réatteindre cela. Et donc, on va arriver à Abraham. C'est-à-dire que toute cette généalogie, quand elle arrive à Abraham, ça lui donne une responsabilité. Ça lui donne un rôle à jouer. Nous portons tous, enfin peut-être, je ne sais pas, je m'avance, mais très souvent, on porte les noms de nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Ce n'est pas seulement pour faire honneur à nos parents qu'on porte un rôle. C'est-à-dire qu'on continue une transmission, une tradition. C'est pas seulement parce que si je dis pas, je donne pas ce nom-là, ma mère, elle me parlera plus jamais. Il y a aussi quelque chose de vrai derrière tout ça. Et donc, si vous voulez, Avram est le successeur de Ever. Il est donc le prophète par excellence. Va Yomer Hashem El Avram. Je sais même pas ce qu'il a fait encore, mais je sais que c'est un Hébreu. D'où la raison du dévoilement à lui. Mais c'est pas le seul Hébreu. La Torah nous présente la famille hébraïque. Terach en tant qu'ancien, c'est le patriarche. Il a trois enfants. Avram, son frangin qui s'appelle Aran, et un autre frère qui s'appelle Nahor, comme le grand-père.
Aran.
Comme le père d'Aran.
Aran et... Alors, non, Haran, c'est Haran. Lui, c'est Aran. Ok ? C'est pas la même chose. Et Nahor, comme le grand-père, il a donné le nom du grand-père. Ok. Donc, l'identité hébraïque, elle est formée, on peut dire, de quatre variantes. Terach, Avram, Aran, Nahor. Je ne sais pas encore qui sont ces gens-là. Par contre, on me dit où ils sont. Ils sont Be'ur Kasdim. Ça veut dire à Ur, Ur en français, en Chaldée. La ville des Chaldéens. Bon, les Chaldéens, c'est des Mésopotamiens. Mais attendez, la famille, on a dit notre famille, ce sont des Hébreux. Qu'est-ce qu'ils font chez les Chaldéens? Ben, ils ne sont pas chez eux. C'est où le pays des Hébreux?
Israël.
Israël, comment tu sais?
Non, parce qu'après Dieu l'a donné.
Ah oui, mais donc ce n'est pas encore.
Non.
Moi, je pense que c'est déjà.
Ah oui?
Eh oui. La preuve, c'est que lorsque, beaucoup plus tard, Yosef, en prison en Égypte, va demander une faveur au ministre de la boisson, dit, va toucher un petit mot à Pharaon pour me faire sortir d'ici, parce que je t'ai aidé quand même. On est d'accord que ce maître et chanson n'est pas juif. Il n'est pas dans les codes de la Torah. C'est un Égyptien, et Pharaon aussi. Il parle l'Égyptien et l'international. L'Égypte, c'est la superpuissance du monde. Donc lorsque Yosef veut faire passer un message à Pharaon, il ne va pas parler en code. Il lui dit, dis à Pharaon que j'ai été kidnappé du pays des Hébreux. C'est certainement pas parce qu'il y a Yaakov et 11 enfants qui habitent là-bas qu'on appelle ça le pays des Hébreux. Ça veut tout simplement dire que c'était connu dans tout le monde antique que cette terre-là était le pays des Hébreux. Alors pourquoi est-ce qu'on l'appelle la terre de Canaan partout? Parce que les Canaanites sont venus, ils ont conquis. Mais dans les traités internationaux de l'époque, c'était clairement la terre des Hébreux.
C'était pas une nation.
Ah bon, et pourquoi pas? Et pourquoi pas? J'ai pas compris, Ever, il n'a pas créé une nation? Elé bene shem le mishpechotam lilshonotam be'arzotam le goyehem. Bien sûr qu'il y a déjà des nations. La nation hébraïque est déjà menée de main de maître par Ever et ses descendants. Donc bien sûr qu'il y a une nation. Alors qu'est-ce qu'ils ont été faire là-bas? C'est fou ça. D'ailleurs, entre parenthèses, ce qui se passe là, ce que je suis en train de vous dire, ça s'est passé pour nous. C'est avant que le mythe palestinien se crée, que ce soit fantastiquement, ça marche de manière incroyable. Je veux dire, avant la création de l'État d'Israël, c'était clair pour tout le monde à l'international que cette terre, c'était la Judée.
Les Polonais disaient aux Juifs, retournez à l'ordre.
Mais évidemment, c'est-à-dire que même quand on parlait de Palestine, de l'empereur Adrien qui a mis le nom Palestine, personne ne pensait que ça s'appelait la Palestine. Tout le monde savait que c'était la Judée et que c'était le pays des Juifs. Donc ce n'est pas parce que l'empereur Adrien il a dit que ça s'appelle la Palestine, ça n'a rien changé à la réalité historique.
Alors pourquoi Dieu dit à Abraham, Abraham à Moshe, qu'il va faire sortir les Juifs pour aller dans le pays que j'ai promis à Abraham?
Mais c'est vrai qu'il l'a promis à Abraham.
Mais alors c'était
des... Mais donc, tu as raison qu'il l'a promis à Abraham. Mais à l'époque d'Abraham... Mais si, parce qu'entre le moment où les Hébreux se sont installés là-bas et Abraham, eh ben, tu vois qu'il est arrivé un truc, voilà. Puisque les Hébreux n'y sont plus et qu'à la place, il y a les Cananéens. Donc, les Cananéens sont venus, ils ont conquis la terre, ils ont dégagé les Hébreux et on retrouve donc nos Hébreux en Mésopotamie du Sud, au sud de l'Irak actuel. Attendez, comment ça s'appelle quand les Juifs, ils ne sont pas chez eux?
Galout,
en exil. Ce qui veut dire qu'on nous ouvre l'histoire du peuple juif sur l'exil et la sortie de l'exil. Ce qui veut dire que l'idéal du peuple juif, c'est de sortir d'exil. Ça nous apprend déjà beaucoup sur notre identité. Alors très bien, on rencontre donc cette famille-là en exil. Et qu'est-ce qui se passe là-bas? Eh bien là-bas, on nous raconte, ben, que le comportement des natifs envers les Hébreux n'est pas au beau fixe. Puisqu'on nous dit « Vayamot Aran al pene terach aviv be'eretz moladeto be'ur kasdim ». Aran est mort devant la face de son père, ça veut dire du vivant de son père, dans le pays de sa naissance, à Ur Kasdim. Si vous allez voir les Midrashim, ils vont vous dire, ils vont vous raconter l'histoire de la fournaise. Que comme Abraham, il avait fait le coup, je casse les idoles, je veux devenir monothéiste, ça n'avait pas plu au roi de la ville qui s'appelait Nimrod, et il a dit, bon, bah, très bien, puisque c'est comme ça, on va voir si ton Dieu il te protège, il l'a balancé dans le feu. Seulement, à côté d'Abraham se tient son frère, Aram. Son père, il est toléré, parce qu'il a quand même un magasin d'idoles, donc a priori, il est bon, il est chez nous. Mais Aram, on ne sait pas. Donc, il dit à Aram, le roi, t'es avec ton frère ou t'es avec moi? Il dit, ben, ça dépend. On verra qu'est-ce qui lui arrive. Abraham en sort indemne, la folie. Et donc, il dit, je suis avec Abraham. Mais ce n'était pas vraiment profond, et donc Dieu ne le sauve pas. Maintenant, venez, on met de côté le Midrash. Parce qu'on a dit, le Midrash doit nous aider à comprendre. Je n'ai pas besoin du Midrash. C'est marqué dans le texte. Vayamot Aran al penet erach aviv, donc il est mort du vivant de son père. Beret moladeto, dans le pays de sa naissance. Be'ur kasdim. Ur, en hébreu, c'est une fournaise. Ur, c'est un feu. Pachout. Donc on nous dit, même dans le texte, c'est vrai que la ville, elle s'appelle Ur. Mais pourquoi est-ce qu'elle s'appelle Ur, la ville? Parce qu'il semble-t-il que c'était monnaie courante là-bas de brûler des gens. Sauf que, et là je me permets d'aller faire une comparaison quand même qui va être osée. Sauf que, si on vient de dire que, finalement, l'identité hébraïque, elle est portée par l'ancien, qui est Terach, mais la nouvelle génération, c'est Abraham, Nahor et Aran. Trois personnes. Une sur trois, un tiers, va être massacrée par l'antisémitisme dans les fours crématoires. Et c'est la fin, c'est ce qui marque la fin de l'exil hébraïque. Toute ressemblance avec un cas récent est purement fortuit et involontaire, ou pas. On est à la fin de notre exil, il va y avoir un drame antisémite qui va détruire un tiers du peuple juif. Alors, pas tous dans les fours crématoires, évidemment, mais on connaît, mais quand même. C'est-à-dire que la corrélation, elle ne peut pas ne pas être faite. Les Bnei Israël et les Bnei Ever, même combat. Ils sont depuis très longtemps, j'imagine, à Ur. Ils en ont pris des postes clés. Mais à un moment donné,
trop c'est trop.
Les Chaldéens disent stop. Qu'est-ce qu'on fait après la Shoah de Ur Kasdim? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il va faire Terach?
Attends,
on ne peut plus rester. C'est plus possible de rester en Pologne. C'est plus possible. Donc, Terach, la première chose qu'il fait, c'est de partir. Il prend sa famille, Abraham, Sarah, la femme d'Abraham, Lot, qui est le fils de Haran, mais qui est encore jeune. Son père vient de mourir dans la Shoah. Lot est un rescapé de la Shoah, pour l'appeler comme ça. Et il part. Et il va où? Il part, donc on est très clair. Pourquoi il part? À cause d'antisémitisme. Évidemment. Maintenant, où est-ce qu'il va? Eh bien non. D'après le texte de la Torah, on nous dit clairement la lechet arza kenan. Il veut retourner en Eretz Kenan. Maintenant, vous n'avez peut-être pas la carte du Moyen-Orient dans la tête, mais disons que Ur, c'est là. Eretz Kenan, c'est là. 1000 kilomètres. C'est pas la porte à côté, à d'autres chameaux. Et tu peux pas le faire en ligne droite parce que c'est le désert. La Jordanie, machin, donc c'est pas traversable à l'époque. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on doit suivre le cours d'eau, le Tigre, l'Euphrate, jusqu'au nord, et ensuite passer par d'autres petits fleuves et descendre la vallée du Jourdain. Quand il va monter au nord, donc le but du jeu, c'est d'arriver en Eretz Kenan. Lama. Pourquoi il veut aller en Eretz Kenan? Mais il sait que c'est la terre de ses ancêtres. C'est la terre des Hébreux. C'est un Hébreu. Comment on appelle ça quelqu'un, un Juif qui habite en dehors d'Israël et qui décide de revenir à Sion? Un sioniste. L'étymologie du mot sioniste, c'est la volonté de revenir à Sion. C'est pas chouette. Donc Terach est sioniste. Mais attention, hein, il n'est pas sioniste parce qu'il a lu la Torah. Il est sioniste parce qu'il a été à l'affaire Dreyfus et il a vu que voilà, l'antisémitisme s'est terminé. Il nous faut un abri pour le peuple juif. Et cet abri, bah, il doit être sur la terre de nos ancêtres. Terach, il avait un deuxième nom, il s'appelait Théodore. Pareil. Mais, donc ça, c'est une version de l'identité d'hébraïque. Le sioniste qu'on va appeler laïque, qui fuit l'antisémitisme. Et donc, pour lui, la terre de ses ancêtres, c'est un rêve de sécurité. Il y a évidemment aujourd'hui une grande partie du peuple juif qui se revendique de Terach. Tous ceux qu'on appelle aujourd'hui les sionistes laïques, ils se revendiquent de Terach. Ils ne le savent pas, mais nous, on le sait maintenant. Il y a une autre version de l'identité hébraïque, Lot. Lot, on a dit, c'est le fils de Haran. Il traîne avec lui le drame
de son père. Mais tu as dit qu'il avait gagné un
troisième. Oui, tu as raison. J'ai fait exprès pour l'instant de ne pas en parler. C'est très bien que tu suives dans 2 minutes. Okay, dès que j'ai fini avec l'autre, j'arrive au troisième frère. Mais tu as raison. Et merci de montrer que tu es là. Lot, il est... D'ailleurs, en hébreu, Lot, ça veut dire quoi? Voilé. Loté, Ba'arafel. Il est voilé. Il ne sait pas voir quel va être son chemin. Il est beaucoup trop pris par le drame de son père. Il y a des gens qui portent en eux, ils sont des rescapés du drame, mais ils vivent le trauma, on dit un truc post-traumatique, machin. Ils vivent, on en connaît plein, des rescapés de la Shoah ou des syndromes de deuxième génération. Mais pas que pour la Shoah. Hein. Alors, la Shoah, c'est pour le clan d'Israël. Mais moi, je me souviens, j'ai vu, là, il y a pas longtemps, quand ils ont fait les cérémonies pour se rappeler de Charlie et pour se rappeler de l'hyper-cachère. Je ne sais pas si vous avez vu cette interview de cette jeune caissière.
Oui.
Bon, tu vois, c'était il y a 5 ans. Tu vois qu'elle le vit au quotidien. C'est, on ne peut pas lui en vouloir, hein, évidemment. Hein, mais elle le vit. Et je ne sais pas combien de temps, elle ne va pas traîner ça toute sa vie. Donc, on a des gens, toute leur identité hébraïque, juive, c'est le souvenir de la persécution.
Balzon.
Je voulais pas donner de nom. Non, mais c'est pas une question de si j'ai vécu moi l'événement ou pas.
Exactement.
C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, ça peut être la Shoah, ça peut être autre chose. Hein. C'est Bémet, Zélo, Méchané, quoi. Il y a des Sfaradim qui ont vécu terriblement le fait qu'ils aient été chassés de leur pays.
Leur pays, bien sûr.
C'est-à-dire, nous, on connaît. Hein
et tout
laisser. Et exactement. C'est-à-dire qu'au moins, chez les Ashkenazim, c'est monté crescendo. Au début, il y avait un petit pogrom, un plus gros pogrom, un gros pogrom. Non, pas comme ça. C'est-à-dire que combien il y en a qui sont venus en Pologne prêcher avant la guerre en leur disant « Eh les gars, faut partir. Eh les gars, faut partir. Eh les gars, faut partir. Jabotinsky qui vient en 39. » En Afrique du Nord, à Bagdad, c'est tombé du jour au lendemain. Du jour au lendemain, on leur a dit, vous partez et vous ne prenez rien avec vous. Bah, tu m'étonnes que ça crée des gens qui sont traumatisés et qui restent avec ça. Donc, il n'y a pas ici un monopole du drame.
Mais nous, quand on a quitté la Tunisie, on était 12 enfants. On ne pouvait pas partir tous en même temps pour ne pas montrer qu'on partait définitivement. Mm-hmm. Donc, on a été échelonnés comme
T'as
ça. Et mon père est resté le dernier avec ma mère, les 4 derniers. Et sur le bateau, ils ont fait de tout pour trouver une preuve qui quittait définitivement. Ils n'ont pas pu le trouver, ils l'ont laissé partir. Il est parti sans rien, il a laissé son affaire, sa maison, tout.
Tu vois, et ça c'est évidemment traumatisant. Donc, il y a des gens qui vivent le traumatisme de la persécution et c'est malheureusement ce qui crée leur identité. Et on en connaît tous aujourd'hui. Il y a un troisième frère, Nachor. Et quand on regarde le texte et qu'on se dit que, ok, donc Terach qui décide de partir, on nous dit qu'il prend Abraham, qu'il prend Sarah, qu'il prend Lot. Et Nachor, il est où?
Je crois qu'il est déjà parti. Non
exactement. Il n'y a pas 36 solutions. Il n'est plus là. Il n'est plus là parce que ça fait belle lurette qu'il n'est plus là. Parce que Nachor, il a vu monter l'antisémitisme à Our et il est parti. Il est parti où? Il est parti à Haran.
Tout seul.
Tout seul, comme un grand. Pourquoi il est parti à Haran? Alors, j'ai dit, Ici, c'est Our, ici, c'est Israël, Haran, c'est là. Mais c'est le chemin. C'est normal de passer par Haran. Mm-hmm. Mais lui, il est parti là-bas volontairement, il s'arrête là-bas. Parce que Haran, c'est la capitale de Aram Naharaim. Aram Naharaim. Haran, c'est le New York de l'époque. C'est la grande ville cosmopolite. C'est-à-dire que c'est le Paris du début du XXe siècle. C'est vous avez peut-être vu le reportage « Heureux comme un juif en France ». Je ne sais pas, il est sorti il y a quelques années déjà. C'est-à-dire qu'au départ, il y a… Ouais, les juifs en France, machin, au début du XXe siècle, c'était après l'affaire Dreyfus, quand justement on avait réglé le problème de l'antisémitisme, c'était la folie. Aram, Naharaim, Haran, c'est l'Eldorado, c'est le nouveau monde. Nahor, il est parti là-bas et c'est le pays où tout est possible. C'est le pays qui ne s'arrête jamais. C'est la folie. D'ailleurs, Nahor, il va réussir. C'est le rêve américain de Nahor. Puisque Nahor, il va non seulement arriver à Haran, mais il va devenir le maire de la ville. Le maire de la ville. Hier, j'étais en formation avec Taglit, hier soir, et on a eu un ancien de Taglit qui habite en France, machin, qui nous a fait une petite tmounat matzav, il nous a fait un débrief de la situation en France, des juifs de France, machin, et des jeunes. Et j'ai posé une question. J'ai dit, on est conscient que le corona, ça fait pas forcément du bien à l'Alia, parce qu'il y a justement plein de gens qui ont peur, machin, mais moi, ma question est la suivante. Comment les jeunes juifs de France réagissent? Est-ce que ça a un effet sur l'appartenance aux juifs des juifs de France à la France qu'il y ait comme porte-parole du gouvernement Gabriel Attal? Le porte-parole du gouvernement français, le porte-parole, c'est un petit jeune de 28 ans, un petit juif. Gabriel Attal, marié à la synagogue, traditionnaliste, machin. Et il m'a dit, mais tu te rends pas compte. Mais c'est un effet de com fantastique de la part de Macron pour montrer que les Juifs de France doivent être avec lui.
Oui, mais ministre de l'Intérieur, ça le gêne.
Bien sûr que ça le gêne. Il n'y a pas de problème. Le ministre de l'Intérieur, il sera certainement candidat contre Macron aux prochaines élections. Mais
grosse erreur.
Pour lui, grosse erreur. Et ça me choquerait pas que Macron, il le lourde avant la fin du truc. Mais si tu veux, de mettre en avant comme porte-parole de la France un jeune juif,
on
le voit souvent, et
il n'est pas planqué.
Mais il m'a dit, mais tu ne te rends pas compte comment les juifs, tout d'un coup, ils sont français.
Ils sont contents.
Ils sont français. Nahor, il est parti à Haran. L'option Haran, ça s'appelle l'option de l'assimilation. Puisque à Haran, tu veux devenir un haranéen, un araméen, à tel point que le fils de Nahor, qui s'appelle Betuel, c'est un hébreu normalement, et pourtant la Torah nous le présente comme étant Betuel à Arami. Et son petit-fils à Nahor, qu'on le connaît très bien, qui s'appelle Lavan, c'est Lavan à Arami. C'est plus américain que Tuber, plus français que Tuber. C'est l'option Nahor, c'est l'option de l'hébreu qui a décidé d'abandonner son idéal hébraïque et qui devient cosmopolite. Évidemment qu'on en connaît aussi. Donc on a un sioniste laïque, un sioniste sécuritaire, on va dire. On a quelqu'un qui vit dans le passé et qui vit dans le traumatisme du passé. Quelqu'un qui justement a décidé de ne pas connaître le traumatisme et donc qui se détache du problème juif. Quelle est la dernière identité? C'est Abraham. Et Abraham, pourquoi il va venir en Israël? Parce que Dieu lui dit. C'est-à-dire que c'est l'option de retrouver son identité. Ah, ça n'a pas été facile. Parce qu'Abraham, lui aussi, il a bossé, il s'est très bien intégré à Haran. Parce que finalement, Terach, il prend tout le monde, il veut aller en Eretz Canaan. Seulement, on a dit, dans le chemin, il passe par Haran.
Lui-même,
et il s'arrête. Ouais. Il s'arrête.
Bah, c'est son fils, quoi.
Il a rencontré son fils, donc moi j'imagine les retrouvailles. Hein. Anachor, il a dû venir. Oh, papa, on a tellement eu peur pour vous là-bas en Pologne.
Regarde aussi, c'est tellement bien.
Mais voilà. Où tu veux aller, papa? Et le père Terach, il a dû lui dire, nous, on va en Eretz Yisrael. Et là, j'étais là, hein, j'ai vu. Hein. Nahor, il a mis la main sur le cœur, il a dit, Imeshkacher Yerushalayim. Enfin, Imeshkacher Yerushalayim. Tishkacher Mene. Mais il a dit, mais c'est sûr, Jérusalem, c'est dans mon cœur. Ah, mais c'est sûr, d'ailleurs, j'ai même fait faire un kotel dans ma maison. Mais tu sais, papa, il y a des Cananéens là-bas. Ils jettent des pierres, ils font des attentats. Je comprends très bien, mais tu sais, c'est peut-être pas la peine d'y aller maintenant, on va attendre que ça se calme. En attendant.
Il y a le magasin et tout.
Ah, mais attends.
C'est chez toi.
Hein ? Il y a les affaires Rosenberg, il y a les affaires Bensoussan. Si tu veux, je peux te présenter. On est là, on est partout, hein, t'en fais pas. Hein. Et il reste là. Maintenant, le petit Abraham, il reste là aussi. Il a découvert Dieu. Très bien. Mais il l'a découvert là-bas. Ce qui fait que pendant toute la première partie de sa vie, Abraham, lui aussi, se détache de son identité hébraïque. Mais il ne devient pas nachorien. Il ne devient pas... il s'invente une nouvelle identité. Une identité schizophrène. C'est fou. Il devient un hébreu dans la maison et un araméen dehors.
Ah bon, on ne connaît pas,
ah bah on connaît pas ça.
Comment ? Ça existe ?
Ça existe, ça.
Il devient un hébreu à la maison parce qu'il enseigne la Emouna du Dieu unique, bien sûr. D'un autre côté, il est complètement intégré dans le système araméen.
Laïcité.
Attention, il ne faut pas faire d'amalgame. Et il va falloir que l'intervention d'Akadosh Baruch Hu pour lui dire, écoute mon ami, c'est pas ce qui est prévu. Pour le peuple juif, il y a un projet de peuple juif. Donc, il va falloir que tu te rappelles que même quand on sort de la maison, on est hébreu. Hein ?
C'est toi qui vas t'y coller.
C'est toi qui vas t'y coller. Et d'ailleurs, c'est pas ce qu'il refuse, que c'est bien lui qui doit s'y coller. Parce que c'est justement quelqu'un qui, au départ, ne voulait pas remplir ce rôle-là, qui peut le remplir le mieux possible. Et c'est de ça qu'on parle. C'est de cela qu'on parle. Abraham va devoir accepter l'idée qu'à partir de maintenant, il retrouve son identité. C'est un hébreu. À partir de quand ça va redevenir un hébreu ? Pas quand il arrive en Israël. Quand il arrive en Israël, c'est bien. Je regarde, je vais faire un petit tour en Égypte et tout. Au chapitre 14 de notre paracha, donc de Bereshit, Abraham va faire la guerre. Ici. Pourquoi il fait la guerre ?
Pour sauver
Lot. Sauf que en vrai, c'est pas du tout pour sauver Lot. Parce que oui, c'est pour sauver Lot. Mais à ce moment-là, une fois qu'il a récupéré Lot, on repart. Mais en fait, on se rend compte qu'Abraham, une fois qu'il a sauvé Lot, il va délivrer tous les prisonniers, il ramène tous les biens à tout le monde. C'est-à-dire qu'il prend le contrôle, il prend la responsabilité de tout ce qui se passe en Eretz Israël. À tel point que Rashi dira qu'à ce moment-là, tous les peuples ont voulu le couronner comme roi. À la fin de la guerre, quand il est revenu en Israël, tous les peuples ont voulu le couronner comme roi. Et il a dit non, moi je ne suis pas... Moi je fais une yeshiva, je ne suis pas... Pas prévu. La politique, ce n'est pas pour moi. Si vous voulez, toute la suite de la paracha, c'est de lui expliquer qu'il n'a pas le choix. Qu'il va devoir rentrer dans cette dimension nationale, qu'il le veuille ou pas. Ça va passer par Ishmaël, ensuite ça va passer par Yitzhak, et tout le long de notre paracha et de la paracha de la semaine prochaine, c'est pour expliquer à Abraham qu'il ne peut pas refuser d'être Abraham.
C'est comme Moshé Rabbeinu.
C'est comme Moshé Rabbeinu, exactement. C'est comme Moshé Rabbeinu. Maintenant, quand est-ce qu'il va devenir Abraham ? Eh bien, à la fin de notre paracha, il lui arrive un petit truc. Il lui arrive une petite intervention chirurgicale au sud du nombril.
Et sans anesthésie.
Tu sais pas.
Ah, sans anesthésie,
il n'y avait pas d'anesthésie. Bon, comment ça, il n'y a pas d'anesthésie ? Il y a plein de plantes anesthésiantes.
Oui, il y avait des plantes.
Alors, c'est peut-être pas aussi efficace qu'aujourd'hui, mais enfin, j'imagine qu'il a quand même fait une petite précaution, quand même, tu vois.
Surtout qu'il était grand, quand même.
Ben, c'est ça.
Mais oui.
Et il s'est fait ça tout seul, comme un grand, en plus. Hein, c'est pas évident. Oui, non, c'est pas évident. Non, c'est pas évident.
Mais... Vous en savez.
C'est ça, qu'est-ce que vous en savez, en plus? Mais Abraham, une fois qu'il fait ça, on lui change son nom. Et on l'appelle maintenant Avraham. Et on te dit qui Av Amon Goim Netatecha. C'est maintenant tu vas avoir une influence sur toutes les nations. Et maintenant je vais avoir une influence. Dafka, maintenant que je suis différent de tous. C'est avant, quand on allait à la douche, bah, on était pareil. Maintenant que je suis différent de tout le monde, je vais avoir une influence sur eux, mais tu rigoles quoi? Ils vont me dire, mais t'es différent. Et Dieu lui explique, Bidiouk. C'est parce que tu as ton identité que tu peux avoir un message pour les autres identités. Si tu crois que tu es comme eux, ils n'ont pas besoin de toi. Et c'est donc à ce moment-là que Abraham accepte son identité d'hébreu. Il sera appelé par la Torah un hébreu après la guerre, mais lui acceptera son identité et son héritage à la fin de la paracha, une fois qu'il a sa brit mila. Et donc finalement, la question qu'on doit se poser de nous, quand je vous ai posé la question au début, est-ce qu'on connaît notre histoire? Eh bien, c'est une fois qu'on la connaît, eh bien, on doit décider lequel de toutes ces faces, de laquelle de ces possibilités hébraïques je choisis. Est-ce que je suis un juif terrachien? Est-ce que je suis un juif aranien? Un juif lotien? Un juif nachorien? Ou est-ce que je suis un enfant d'Abraham? Vous, vous avez déjà répondu à la question. Mais on sait qu'il y a énormément de nos frères qui n'ont pas encore répondu à cette question-là. Quelle est l'option qu'on n'a pas évoquée? Quel est l'idéal, l'identité hébraïque qui n'a pas été évoquée dans la Torah? Serait une identité qui répondrait à l'appel de Dieu à Haran, et qui resterait à Haran. Vous savez, des gens qui sont très intéressés par la Torah et les mitzvot, mais pas par Israël. Bah, tu vois que la Torah, elle ne pense pas que c'est une identité acceptable. Bah, parce que ce n'est pas possible, en vrai. En vrai, ce n'est pas possible. C'est la fameuse schizophrénie d'Abraham. Avant de venir en Israël, Abraham, il est charédi. Mais à la maison, au Beth Midrash, à la Choule. C'est avant de venir ici, Abraham, il est dans son idéologie que je vais me faire un ghetto juif à moi. Je vis chez eux parce que c'est très bien d'être chez eux, il y a tous les avantages, machin, mais je reste. Et Akadosh Baruch Hu lui dit dans l'Ech Lecha, ça marche pas. C'est pas ça le but du truc. Donc voilà, la question est de savoir d'où on vient pour savoir quelle identité je choisis d'embrasser et quel héritage je porte à bout de bras. Oui.
Moi, j'ai dû passer quelque chose, mais si on ne tient pas compte de toutes les justifications que donne le Midrash pour que Dieu se soit adressé à Abraham,
pourquoi il s'adresse à lui?
À part le fait qu'il est un hébreu,
ça suffit.
Oui, mais pourquoi lui? Ça aurait pu être.
Ah, ça aurait pu être Haran, mais il est mort, donc c'est plus possible. Ça aurait pu être Lot, mais il ne sait pas où aller.
Oui, ça, c'était les trois.
Ça aurait pu être Nahor, mais Nahor, il a choisi d'abandonner son hébraïtude. Donc, il reste plus qu'à voir.
J'ai entendu, c'est parce qu'il était très bien conduit au moment qu'il a fait la guerre. Après, il n'a pas pris les butins.
Oui, mais ça, c'est après. Il n'a pas encore fait la guerre.
Non, mais tu as dit que c'était un mèche,
Oui, mais ça, je ne le sais pas.
Les autres aussi,
peut-être. Peut-être les autres aussi. La guerre dont tu parles, tu as raison, mais ça, c'est plus tard, c'est quand il est déjà en Israël.
Mais c'est après la guerre
qu'il est déjà en Israël. Oui, mais alors après, Dieu lui a parlé.
Oui, mais il a déjà parlé avant. Hein? Le Lech Lecha, c'est quand il est encore en Haran.
C'est après la guerre qu'il devient.
Bah, Lot, il est parti à Sodome.
Il était
prisonnier. Abraham l'a récupéré, après ils se sont disputés. Il est parti D'abord, ils se sont disputés, il est parti à Sodome, il a fait la guerre, ensuite il a été libéré, il est retourné chez Abraham. Et puis après, il a été faire des petites folies avec ses filles. Et puis, après, voilà, il est parti.
Il a été choisi par
défaut. Non, peut-être que c'est pas. C'est, nous, on regarde l'histoire après coup. Donc on se dit, bah, les autres, c'était pas possible. Mais est-ce que c'était pas aussi un choix idéal? Peut-être que le. C'est-à-dire, à Haran, il va quand même s'occuper de dévoiler à Kadosh Baruch Hu. Donc il est quand même plus proche de l'idéal de l'hébreu que ne le sont. C'est pas seulement par défaut. Il se trouve que les deux autres, ils sont vraiment bah, plus possibles, mais peut-être que lui, il le mérite quand même. Voilà. Hazak Baruch.
Ça fait drôle ce que tu as dit.